Qui est le héros de l'histoire? Alors, tout ce que je vais vous présenter, c'est un travail que j'ai fait dans le cadre d'un cours à la fac de Vaux-sur-Seine. Donc, tout ça pour justifier que ça ne vient pas que de moi. J'ai étudié la question à l'aide de divers commentateurs et j'ai été corrigée par un correcteur et tout ça. Voilà. Nous allons parler du livre de Job. Qui a déjà lu ce livre en entier? Ah, c'est bien, parce que c'est un long livre de la Bible quand même. Hein. Bravo. Alors, ceux qui ne l'ont pas lu, pas d'inquiétude, on va passer en revue un petit peu le livre dans sa globalité. Et surtout, même sans l'avoir lu en entier, il y a des versets qui sont très connus, dont on va parler ce matin. Alors, Job est connu pour avoir beaucoup souffert. Même dans la culture populaire, Job, c'est un prénom qui sonne, oulala, pas de chance. Donc c'est quelqu'un qui a justement pas eu de chance, si on peut dire, dans la vie, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses richesses et qui a aussi perdu sa santé. Et pour ses amis, c'était incompréhensible, comme pour nous aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont passé tout leur temps à essayer de comprendre et de justifier cette souffrance. Leur raisonnement imparable, pour eux c'était évident, Job a commis des péchés et donc Dieu le punit. Et en fait, c'est malheureusement le système qui nous régit encore aujourd'hui. Même les incroyants ont ça au fond d'eux, il y a le bien, le mal, si tu fais le bien, tout va aller bien, si tu fais le mal, ça va te retomber dessus. Qui soit croyant ou pas, il y a beaucoup en ce moment de croyances spirituelles qui font qu'on va dans ce sens-là entre ce qu'on mérite, ce qu'on mérite pas. Il y a le karma qui nous retombe dessus. J'entends tous les jours parler du karma. Je ne sais pas si c'est vous aussi. Donc voilà, ça c'est une théorie qui... Ça marche plus. qui a la vie dure. Alors ça, c'est donc une citation d'un des amis de Job. « N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite ?» Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. On comprend en lisant le livre que Job n'a pas spécialement fait quelque chose qui méritait d'être puni. Job est innocent devant Dieu et même Dieu va le dire à la fin que ses amis avaient tort d'essayer de le condamner comme ça. Donc c'est une conception erronée de la souffrance qui a la vie dure parce que de siècle en siècle, on est toujours empêtré dedans. On est dans une société du mérite, de la performance, et il faut à chaque fois expliquer toutes les choses. Mais est-ce qu'on mérite tout ce qui nous arrive? Est-ce que la souffrance s'explique toujours? Et la grâce aussi, la grâce, est-ce qu'elle se mérite? Est-ce qu'elle s'explique? Quelle est la vraie question à se poser en lisant Job? Alors, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises questions, toutes les questions sont intéressantes, mais j'ai envie de parler d'une question qui m'a, moi, plus touchée. Alors, on voit que la Bible, désolée, à chaque fois je dois appuyer, je ne sais pas combien de fois, voilà. La Bible montre bien que le péché n'est pas forcément une punition par rapport à... la souffrance n'est pas forcément une punition par rapport à un péché. Jésus a guéri un aveugle, qui était aveugle de naissance. Et quand des personnes ont demandé, mais du coup, pourquoi il était aveugle? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Jésus a dit que non, ça n'avait rien à voir. Il était aveugle, c'est tout. Il n'a pas expliqué pourquoi, mais ce n'est pas à cause d'un péché. Certains ont demandé aussi à Jésus quelque chose, et il a donné un exemple. Ah, mais je pense que c'est lié, en fait, c'est la même histoire. Jésus a expliqué que ceux qui sont morts quand une tour s'est effondrée, c'est pas forcément parce qu'ils méritaient plus de mourir que ceux qui ne sont pas morts et qui étaient un peu plus loin et la tour s'est pas effondrée sur eux. Il n'y a pas de mérite. Dans Romains 8, on voit aussi que la création entière est soumise à la corruption. Donc ça, c'est notre réalité. Que ce soit la création ou les humains, on est dans ce monde où il y a de la souffrance. Même qu'on ait péché ou qu'on n'ait pas péché, on peut être concerné par la souffrance. Mais... Voilà. On voit aussi, on ne peut pas le nier, que la souffrance peut aussi être une conséquence du péché. Ça, c'est aussi la vérité que la Bible nous enseigne. Donc, je lis quelques versets, pour exemple, dans Deutéronome. « La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. » Dans Proverbe, « Le malheur poursuit les pécheurs, tandis que le bonheur récompense les justes. » et dans Ésaïe, ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et Dieu. Donc en fait, on a ces deux extrêmes, si je puis dire, et on ne sait pas quoi faire avec. Et les amis de Job non plus ne savaient pas, donc ils s'appuyaient certainement sur des vérités, voilà, le malheur poursuit les pécheurs et le bonheur récompense les justes. Mais voilà, du coup, entre les deux, on ne sait pas trop quoi faire. J'ai vu aussi autre chose, j'ai relu le psaume 91 récemment. Pendant tout le psaume, Dieu promet sa protection. Par exemple, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste, ni si quelqu'un t'attaque, tu ne seras pas atteint. Voilà, tu ne seras pas atteint. Et à la fin du psaume, je serai avec lui dans la détresse. Donc finalement, on est protégé ou on n'est pas protégé. Il y a quand même une double réalité avec laquelle il faut qu'on fasse avec. Donc même si Dieu promet qu'on ne sera pas atteint, qu'on sera protégé, il est avec nous dans la détresse. Donc ça veut bien dire que la détresse, elle est là, elle existe. Donc c'est très complexe pour nous, humains, mais en fait, la vérité, c'est que Dieu est à la fois parfaitement saint, sans péché, parfait, et amour. C'est ce qui fait qu'il y a une justice et qu'il y a également une grâce. C'est l'équilibre qu'on trouve un petit peu entre les deux extrêmes. On ne souffre pas à cause du péché, mais on peut aussi souffrir à cause du péché, mais bref. Alors, le livre de Job, à quoi sert-il ? Puisque finalement, on lit beaucoup de développements erronés qui nous font croire qu'on souffre à cause de nos péchés, mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. Alors, ce n'est pas forcément faux non plus. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Les amis de Job n'ont pas forcément faux. Ce serait quand même dommage de lire dans la Bible des chapitres entiers qui sont complètement pas justes. C'est surtout qu'ils ne sont pas adaptés à la situation. En fait, ils ne sont pas encourageants pour Job parce qu'ils ne font que l'enfoncer en disant « Tu as péché, c'est normal, c'est de ta faute si tu souffres. » Donc, ce n'est pas forcément à côté de la plaque parce qu'il y a des versets qui sont justes et on voit que c'est la vérité en comparant avec d'autres versets dans la Bible. Mais voilà, on va dire qu'ils étaient un peu hors sujet. Donc, ces discours ne sont pas à rejeter totalement, mais à mettre en parallèle des autres textes bibliques et à utiliser dans nos dialogues avec Dieu. Et dans ce sens, je vous invite à réécouter la prédication que Adeline nous avait donnée en 2018 sur le livre de Job, qui est complémentaire, on ne va pas exactement dire la même chose, mais c'est complémentaire, je l'ai réécouté récemment avec plaisir. Alors j'ouvre une petite parenthèse, sur notre site internet de l'Église, vous avez un onglet « Prédication et études » et ensuite vous avez « Prédication et études par livre biblique ». Et là, vous avez tous les livres bibliques et vous pouvez cliquer et vous avez toutes les prédications qui sont dessus. Donc là, quand vous cliquerez sur Job, vous verrez la prédication d'Adeline et du coup, bientôt, celle-ci que je suis en train de vous faire. Voilà, donc en fait, tout ça, ça nous pose aussi la question de notre réaction et de nos paroles quand un ami souffre. Je me prêche à moi-même parce que moi aussi, j'ai souvent tendance à rechercher, mais pourquoi ? Et à rejeter la faute sur lui. Souvent, on dit que... Alors c'est vrai hein, que les maladies sont liées aussi au mental, donc on se dit « ah ben il n'arrête pas d'enchaîner telle et telle maladie, ça doit être de sa faute parce que son mental, blablabla ». On cherche souvent des explications. Mais attention à ce qui n'est pas constructif et ce qui n'est pas juste. Ça nous pose aussi la question de notre théologie, des fondements de notre foi. Alfred Kuhn dit que si Job ne souffre pas à cause de péchés qu'il aurait commis, toute leur théologie s'écroule, toute la théologie de ses amis s'effondre, parce que du coup, pour eux, il n'y a que ça qui peut expliquer la souffrance. Sur quoi pourront-ils s'appuyer si Job n'est pas puni pour ses péchés ? Et alors, en fait, donc, j'ai lu quelque chose de très intéressant dans un livre. Les livres d'Ecclésiaste et de Job ont tous deux été inclus dans les Écritures par Dieu, en partie pour nous rappeler qu'il y a peu de choses qui sont automatiques dans les événements heureux ou malheureux qui peuvent nous arriver. Ecclésiaste et Job étaient étudiés un peu ensemble en tant que livre poétique. Ecclésiaste, il parle un peu plus du bonheur de la vie, même si c'est éphémère, mais bon, de profiter, jouir de la vie, des plaisirs qu'on y trouve et tout ça. Et Job, il parle un peu plus de la souffrance. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de choses qui sont systématiques. Il peut y avoir des événements heureux qui nous arrivent, il peut y avoir des événements malheureux. Alors, prenons un peu de recul sur l'ensemble du livre et sur son contexte. En fait, il faut savoir que Job, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la Bible au niveau littéraire. On l'appelle parfois le Shakespeare de la Bible. C'est-à-dire que c'est le livre qui a été le mieux écrit. Poétiquement, au niveau littéraire, c'est vraiment un chef-d'œuvre par rapport à d'autres livres qui sont plus des récits historiques où il n'y a pas... Voilà. Alors ça, on le voit dans la version originale. Peut-être que nous, en le lisant en français, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais donc voilà, c'est une création littéraire. Et c'est peut-être même pas forcément une histoire vraie. Peut-être qu'elle a été inspirée d'un personnage qui a vraiment existé. Peut-être que le personnage de Job a vraiment inspiré l'auteur. Mais ce n'est pas forcément des vrais discours, des vraies choses qui ont été retranscrites. C'est une création littéraire. Moi, ça m'aide de me dire ça, parce que ça nous fait penser qu'il y a tout un travail de recherche littéraire pour nous faire réfléchir, en fait. Donc, on ne va pas forcément aller chercher quel ami, pourquoi, quelle relation il avait avec Job. On ne va pas chercher dans tous les détails. On peut peut-être s'imaginer que c'est une histoire fictive qui est là pour nous faire réfléchir. Et donc, c'est aussi pour ça que les échanges, donc au début, on va en parler après, l'échange entre Dieu et le diable, les longs échanges entre Job et ses amis, du chapitre 3 au chapitre 37, c'est un exercice littéraire parce qu'à chaque fois, c'est calculé. Il y a tant et tant de vers attribués à tel ami, ensuite tel ami parle exactement la même longueur, et ensuite ça fait 4 fois 4, enfin, c'est tout calculé comme dans un immense poème, en fait. Donc voilà. Alors, pour citer quelques grands théologiens, Sylvain Romerovski, lui, son avis, c'est que Job, c'est pas une histoire vraie. Henri Blocher, il a pas le même avis, il pense que c'est une histoire vraie. Donc voilà, entre les deux, moi, ça m'a intéressé de savoir que ça pouvait être inspiré d'un vrai personnage, mais après, on a fait toute une création artistique et littéraire autour. Dans tous les cas, si c'est un vrai personnage qui a existé, c'était plus au temps de la Genèse, c'est vraiment très très ancien. Alors que dans notre Bible, le livre se situe un peu au milieu, c'est quand même une histoire chronologiquement très très ancienne. Donc voilà, au début, Dieu permet au diable de porter atteinte à Job, on a un petit dialogue. Ensuite, on a une trentaine de chapitres sur les échanges entre Job et ses amis, qui disent en gros, Job dit « je suis innocent », ses amis lui disent « tu as péché, c'est pour ça que tu souffres », en très gros résumé. Et enfin, à la fin, on a la réponse de Dieu. Mais à quelle question répond-il ? Pourquoi la souffrance ? On n'a pas vraiment de réponse claire. Dieu parle au contraire de sa souveraineté. Alors, on a quelques réponses quand même dans le livre de Job au pourquoi la souffrance. Ça peut nous permettre de fortifier notre foi. Ça peut nous permettre de susciter des prières. Et après, bon, là, ça, c'est moi qui le dis. Dieu devrait-il se justifier ? C'est un peu lui qui le dit aussi à la fin, parce qu'en fait, il ne donne pas de réponse. Alors, pour info, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux et j'ai eu plein de réponses. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Mais en fait, aucune des réponses ne m'a vraiment satisfaite à 100%. Parce qu'il y a plein de souffrances qui ne sont pas liées ni au péché, ni aux humains, ni au libre arbitre, ni à rien du tout. Quand on pense au cancer, aux maladies chroniques, aux souffrances comme ça inexpliquées, au décès, c'est pas une question de libre arbitre. Et après, toutes les réponses qui étaient dans le sens « on souffre pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu, d'apprendre, de croire en la guérison », je pense que c'est des conséquences heureuses qui, oui, la souffrance peut nous apporter ça, mais je pense pas que ce soit la raison. Dieu ne nous fera jamais souffrir pour nous apprendre quelque chose. Nous, on va se servir de la souffrance pour progresser, pour aller plus loin, mais je ne pense pas que ce soit la raison. Tout ça pour dire que cette question, elle ne me plaît pas. Pourquoi la souffrance ? Du coup, on va rester bloqué et on ne va pas pouvoir avancer. Alors, recommençons du début. Qui est le héros de l'histoire ? On a souvent tendance à penser que c'est Job. Le livre s'appelle Job. Mais et si on imaginait ce matin que le héros de ce livre, c'était Dieu ? Parce que tout commence avec Dieu. Et c'est le diable qui essaye de prouver quelque chose. Le diable essaye de montrer que si Dieu est aimé, par Job par exemple, c'est parce qu'il le bénit. Mais le diable essaye de montrer en fait que Dieu n'est pas réellement aimé par ses serviteurs, mais que ses serviteurs se servent de lui pour être bénis et que leur louange ne tient qu'à un fil. Tout le développement ensuite, c'est les péripéties un petit peu qui vont essayer d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Mais c'est plus, voilà, du coup, Job est utilisé en tant qu'un outil et plus en tant que le personnage principal. C'est une façon de voir les choses, hein. Je ne dis pas que c'est la seule. Donc en fait, le diable porte atteinte à Job en deux étapes. Voilà, c'est ce qu'il dit au début. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de la protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Mais porte donc la main contre lui, et je suis sûre qu'il te maudira en face. » Et ça, en fait, c'est un peu la clé de lecture de tout le livre. Le diable essaye d'humilier Dieu, de lui dire « Oui, oui, non, mais Job, ok, il est admirable, mais enlève-lui, permets-moi de lui enlever ses richesses, ses biens, sa santé, et tu verras si finalement il croit toujours en toi et il t'aime toujours. » Mais on voit que Job ne perd pas la foi. Après sa première épreuve, c'est là qu'il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Là, sa santé n'était pas encore atteinte. Ensuite, le diable revient et dit « Oui, oui, mais là, il est toujours en bonne santé, permets-moi de l'éprouver dans sa santé. » Dieu dit « Oui, à condition que tu préserves sa vie. » Et là, Job, même sa propre femme lui demande de renier Dieu par rapport à tout ce qui lui arrive. Mais non, là, il dit « Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Alors voilà la vraie question. Dieu est-il digne d'être aimé juste pour qui il est, simplement d'être Dieu, et pas forcément pour ce qu'il fait, ce qu'il donne, ce qu'il accorde comme bénédiction. Mon amour pour lui est-il inconditionnel? Je ne dis pas que c'est la seule et unique bonne façon donc, de lire ce livre biblique, mais moi ça m'a touchée. Comment j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu parce qu'il est bon avec moi ou parce qu'il est bon? Est-ce que je l'aime vraiment, en fait, c'est ça la question. Est-ce que je l'aime vraiment de manière désintéressée? Oups. Ah, pour une fois que ça marche, hein, voilà. Cette question nous engage, en fait. Quand on se demande pourquoi la souffrance, on peut vite en venir à accuser Dieu. Parce que du coup, ça ne nous concerne pas. Alors que comment j'aime Dieu, là, c'est de mon ressort. Est-ce que Dieu est digne d'être aimé? Est-ce que je lui témoigne mon amour? Là, c'est ma responsabilité. J'aime bien aussi cette question parce que du coup, c'est Dieu qui gagne. Le tentateur, à la fin, il se retrouve... Alors j'ai mis bête, mettez ce que vous voulez, il se retrouve bête. Son hypothèse ne tient pas la route, il a eu tort, il s'est trompé. Il ne réussit pas à humilier Dieu ou à le décrédibiliser parce que Job a gardé la foi. Et en fait, à la question « Pourquoi la souffrance ?», du coup, on n'aura pas de réponse. On aura quelques réponses, mais jamais une réponse très satisfaisante. Alors qu'à la question « Dieu est-il digne d'être aimé ?», la réponse est toujours « Oui ». Donc, on peut saluer la confiance de Job, sa persévérance dans l'épreuve, tout ça, c'est vrai. Mais si Job n'est pas le héros de l'histoire, si on dit que c'est Dieu le héros de l'histoire, Job, du coup, c'est un instrument au service de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Des instruments au service de Dieu. Nous voulons être les héros de notre vie, mais nous sommes les instruments de Dieu. Nous voulons être bénis, mais c'est Dieu qui doit être glorifié. Alors Job, à travers toutes ses épreuves, a appris à aimer Dieu inconditionnellement, parce que du coup, il a tout perdu, il n'avait plus rien, et il était obligé d'aimer Dieu pour rien, juste parce qu'il est Dieu. C'est l'expérience aussi que nous pouvons faire quand on perd quelque chose. Et même si on perd rien, c'est une bonne question à se poser par rapport à tout ce à quoi on tient dans la vie, tout ce à quoi on est très attaché, nos idoles. Si on perdait tout, il nous resterait Dieu et il serait toujours autant digne d'être aimé. Alors cela dit, si Dieu est le héros de cette histoire, il utilise Job comme pièce maîtresse de ce défi céleste. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de mon correcteur de la fac, mais je la trouvais belle, je voulais la dire. Dieu utilise Job comme pièce maîtresse de ce défi céleste. C'est une façon un peu voilà, de s'intégrer dans nos vies aussi que Dieu fait. Alors je vais juste lire quand même, parce que je parle, mais il faut quand même qu'on lise un petit peu ce qui est écrit dans ce livre. Alors, dans la réponse de Dieu, donc il n'explique pas pourquoi la souffrance, il parle de tout ce qu'il a créé. Il y a un long développement sur la nature. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Et là, je ne l'ai pas mis, mais je vais lire encore autre chose. As-tu, donc il s'adresse à Job, as-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Ça, c'est ce que Dieu dit pour montrer qu'on ne peut pas vraiment se mesurer à lui. On ne peut pas du tout se mesurer à lui par rapport à tout ce qu'il a fait et par rapport à sa sagesse. Et là, je ne vais pas lire, mais il a aussi parlé de plusieurs animaux. Donc, il a parlé dans un chapitre de la création, de la nature, la météo, le cycle de l'eau, tout ça. Et ensuite, il parle aussi beaucoup des animaux, dont en particulier le crocodile, qui est le plus fort, le plus solide, le plus résistant, que personne ne va oser aller s'attaquer à lui. Donc c'est pour dire, Dieu a créé toutes ces choses-là. Qui sommes-nous pour l'accuser de quoi que ce soit, en fait? Qui sommes-nous pour essayer de débattre avec lui? Et c'est ce que Job va répondre, d'ailleurs. Alors, il va répondre, après un premier échange, « Je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre ?» Et à la fin, il va répondre aussi, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Et le verset très connu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alors, un petit témoignage personnel pour illustrer ça. Voilà, alors ça, c'est pas du tout une citation qui est dans la Bible, mais c'est une citation que mes collègues m'ont offert, enfin, dans un tableau. « Vivre la naissance d'un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle. » Alors, quand on est enceinte et qu'on lit ça, on dit « Waouh, c'est miraculeux, c'est trop bien, oh, c'est trop beau. » Et alors, en fait, j'ai prié pour un accouchement sans douleur. Donc, riez, hein, on peut toujours rêver. Donc, après, ça existe, hein, c'est rare, mais ça existe, et surtout, je crois que Dieu est capable de tout. Mais il ne m'a pas répondu dans ce sens. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout raconter de détails, mais je n'ai pas eu un accouchement sans douleur. Pourquoi ? Mon problème, c'est que je suis restée longtemps bloquée sur cette question. Pourquoi ? Pourquoi j'ai dû souffrir autant ? Et encore, là, c'est une des seules souffrances au monde qui finit avec un beau résultat, on va dire. On sait qu'on ne souffre pas pour rien. Que dire de ceux dont le corps souffre pendant longtemps, sans forcément qu'on trouve la raison, sans qu'il y ait de traitement possible ? Là, c'est carrément un autre sujet. Mais même moi, avec ma petite souffrance d'accouchement, pourquoi ? Pourquoi ? Et alors, en fait, quand j'arrête de me poser cette question et que je me pose l'autre question, ça me bouscule un peu. Dieu est-il digne d'être aimé ? Est-ce que j'aurais aimé Dieu encore plus s'il avait répondu à ma prière? Et est-ce que je l'aime autant, même si j'ai connu la douleur? C'est ça la question. C'est une question difficile, mais du coup, c'est ce qui me permet un peu de tourner la page et de passer à autre chose. Donc au lieu de demander à Dieu pourquoi, maintenant je vais lui demander, je t'aime quand même, enfin quand même, tu n'as pas répondu à ma prière, tu as... Un peu comme Job, tu as donné, tu as repris, voilà, tu as donné la douleur, tu n'as pas empêché la douleur, voilà, sois béni. Avant la conclusion, j'aimerais vous permettre à vous aussi de raccrocher tout ça à votre vécu et qu'on s'unisse dans la prière pour vous. Alors, je propose de prier, faire une petite parenthèse. Peut-être que je vais vous proposer de tous fermer les yeux, comme ça, ça reste un peu anonyme. Et que ceux qui sont en ce moment dans une souffrance, dans un pourquoi, ceux qui ont besoin d'une révélation de Dieu, vous puissiez lever la main. Ce sera surtout un signe entre vous et Dieu. Et je vais prier, et puis tous les autres vont se joindre à moi pour demander à Dieu d'intervenir dans votre situation. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Moi, je ne regarde pas, je regarde mon papier. Et ceux qui ont besoin d'une prière particulière, vous pouvez lever la main. Seigneur, si des personnes lèvent la main en ce moment, apporte-leur la consolation, la délivrance, la guérison. Soulage leur souffrance inexpliquée. Envoie un miracle sur leur vie. Rétablis-les. Montre ta lumière, ton chemin, ta vérité. Donne ta force. Donne un petit peu de ta vie. Donne la persévérance, comme Job. Renouvelle en eux la foi. Et en tant qu'Église, nous unissons ensemble dans la prière pour ces personnes parmi nous qui connaissent la souffrance, que tu puisses leur apporter soit une réponse, soit une délivrance, mais quelque chose, et que tu sois leur soutien. Amen. Alors n'hésitez pas aussi à venir donner un petit témoignage à la fin, ou quand vous voulez, un autre dimanche, par rapport à ce sujet. Pour finir, Job, en fait, c'est une image d'une autre personne qui va souffrir injustement et qu'on connaît très bien. C'est Jésus. Et Jésus, lui aussi, nous avertit que nous aurons à souffrir dans le monde. C'est pas comme si on n'était pas au courant. Donc Dieu ne se justifiera pas de toutes les souffrances qu'il nous a permis de connaître, mais cela ne le rend pas moins digne d'être aimé et loué. La vraie question du livre de Job et de toute notre vie, enfin une des vraies questions, on va dire, est d'apprendre à connaître et louer Dieu pour qui il est, même si nous devons souffrir comme Jésus. Et en fait, de la même façon qu'il est inutile d'essayer de justifier l'épreuve, il est aussi inutile d'essayer de nous justifier nous-mêmes, parce que nous savons que c'est Jésus qui nous justifie. Et si on sort du système de mérite, récompense, punition, tout ça, comme je disais au début, du coup, je pense qu'on sera un petit peu plus dans la vérité. Alors nous, on aime Dieu inconditionnellement, sans forcément souffrir. Hein. Dieu ne nous demande pas de souffrir pour lui montrer qu'on l'aime, c'est pas ça la question. Par contre, lui, Jésus, il a souffert parce qu'il nous aime, inconditionnellement. Je vais vous raconter un exemple que j'ai vu à la télé. Qui regarde Koh-Lanta ? Je serais peut-être un peu seule au monde, mais il y en a quelques-uns. Alors en fait, Koh-Lanta, c'est un jeu de télé-réalité où les participants doivent survivre sur une île, qu'ils doivent chercher à manger, tout ça. Ils ont aussi des épreuves sportives qu'ils doivent gagner, et ils s'éliminent les uns les autres pour qu'à la fin, il ne reste qu'un seul gagnant. Donc c'est un jeu comme ça. Un jour, le maître du jeu a proposé à un joueur d'immuniser une autre personne. C'est-à-dire que si des gens votaient contre cette personne, ça comptait pas. Elle avait une immunité particulière. Et donc c'est pour ça que je vous les ai mis en photo, comme ça je peux expliquer. Donc Loïc a choisi d'immuniser Alexandra. Première chose, il n'a pas choisi de l'immuniser parce qu'elle le méritait particulièrement. Elle n'a pas forcément gagné à une épreuve ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est son ami. Donc là, on est dans l'amour inconditionnel, immérité. Il a voulu sauver son ami parce qu'il l'aime. Et en fait, ce qui était touchant, c'est que ce soir-là, plein de personnes avaient voté contre Alexandra. Donc on voyait, la caméra était sur son visage, ses yeux pleins de larmes, parce qu'elle comprenait qu'elle avait vraiment échappé à la perdition, j'allais dire. Voilà, elle serait sortie du jeu, quoi. Et donc le maître du jeu disait, à chaque fois qu'il dépouillait Alexandra, « Ce vote ne sera pas comptabilisé. Ce vote ne sera pas comptabilisé. » Et là, je me suis vue aux portes du paradis. Là, j'ai vu la grâce que Dieu nous fait de nous accueillir alors que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le méritons pas. Jésus me fait passer des ténèbres à la lumière. Il cloue mes accusations à la croix, c'est écrit aussi dans la Bible. Pas parce que je suis parfaite, je le mérite, je suis innocente, j'ai fait des trucs bien, mais parce qu'il m'aime. Et alors toi aussi, c'est pareil, quand tu entreras au ciel, si tu crois en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, quelqu'un dépouillera tous les votes contre toi avec ton prénom. Anna, Emmanuel... Voilà, désolé, hein, Jean-Philippe, voilà, je dis tes prénoms comme ça. Toutes ces accusations-là, tous ces péchés qui nous accusent, qu'est-ce que Dieu dira ? Ce vote ne sera pas comptabilisé. Jésus t'a immunisé. Et là, on revient au cœur de la louange. Là, on sait pourquoi on aime Dieu. Tout est centré sur toi, Jésus. Le héros de notre vie. Alors, on le loue pour ce qu'il a fait à la croix, certes, mais ce geste nous montre qui il est, ce geste nous montre son amour inconditionnel. Et quand on a compris ça, on peut aussi dire comme Job, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. » On ouvre les yeux sur l'amour de Dieu. Et c'est ce que j'espère pour nous tous ce matin. Si tu es déjà venu à l'église, tu as souvent entendu parler de Dieu, tu as fait tout le parcours, école du dimanche, famille chrétienne, blablabla. Tu as même entendu parler de Job, de sa persévérance. Mais je prie que ce matin, tu puisses voir de tes propres yeux, ou plutôt ressentir profondément dans ton cœur ou dans ton âme, à quel point Dieu t'aime et à quel point tu l'aimes. Ben, c'est là-dessus qu'on va terminer. Je vais vous proposer d'enchaîner tout de suite avec un chant, parce que dans le chant « Grâce infinie », oui, les musiciens peuvent venir, c'est l'image aussi que l'auteur John Newton a utilisée. « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Alors que Dieu nous ouvre les yeux sur les choses qui sont la vérité, au-delà de la souffrance, au-delà de tout ce qu'on peut traverser, qu'on puisse voir la grâce de Dieu qu'on ne mérite pas.